Chapitre 11. Monsieur Vianney dira un jour à l'un de ses confidents : « On n'a jamais compris le pèlerinage d'Ars. Vous, vous le comprenez un peu. On ne saura qu'au jour du jugement le bien qui se fait ici dans les âmes. » S'agissant d'un homme aussi vrai, aussi modeste que le curé d'Ars, cet aveu est impressionnant, nous dit l'abbé Monin. D'autant plus que l'adversaire ne s'y est pas trompé. Satan a mesuré très vite le bien qui se fait ici dans les âmes. Et lui, qui choisit toujours les meilleurs, s'acharnera pendant 35 ans de la manière la plus odieuse à tourmenter le curé d'Ars. Chose étrange, quand il m'arrive d'évoquer ces questions, je ne trouve guère en face de moi que des sceptiques et des ricaneurs, même et surtout parmi les chrétiens. Tout se passe comme si l'on ne croyait plus aux démons et comme si, parallèlement, l'on ne croyait plus aux anges. Notre monde contemporain n'accepte que ce qu'il lui plaît de choisir. Un grand biologiste contemporain, vigoureusement agnostique, m'a dit au cours d'un entretien que je ne suis pas prêt d'oublier « Personnellement, je ne crois pas, mais je considère qu'il est anti-scientifique de se permettre l'ironie à propos de ces questions et de rejeter a priori l'hypothèse des esprits, bornant ainsi nos curiosités et nos investigations » aux seules apparences du monde sensible. Il s'agissait encore une fois d'un incroyant et qui tenait le langage même qu'Alexis Carrel avait tenu 50 ans plus tôt lorsqu'il se plaignait, lui, athée, du matérialisme du début du siècle, de son indifférence en matière spirituelle et de son ignorance grossière. Sans être théologien, on peut étudier un peu la démonologie. Et ce n'est certes pas un mouvement de vaine curiosité. Souvenez-vous de la parole de Baudelaire. La plus belle ruse du démon, c'est de nous persuader qu'il n'existe pas. Je pense encore à cette phrase étrange de Denis de Rougemont qui s'inquiétait de l'Amérique parce qu'elle ne croit pas au diable. Et je ne répéterai jamais assez mon étonnement devant les railleries, haussements d'épaules et professions de scepticisme qui accueillent presque toujours cette affirmation. Faites devant un public en majorité chrétien que le démon existe et qu'il est parmi nous. Ce problème capital a été traité dans une véritable somme publiée aux études carmélitaines en 1948 et intitulée « Satan ». On y pourra lire, parmi de nombreuses études et de nombreux témoignages, une mise au point fort claire du père de Tonquédec. Rappelant d'abord les textes de l'Évangile, notre Seigneur évoque Satan sous le nom de prince de ce monde, puis l'Apocalypse tout imprégné du combat entre Dieu et l'ange de l'abîme, puis la doctrine et les enseignements, de saint Paul où l'apôtre appelle Satan le Dieu de ce siècle, puis enfin saint Augustin et saint Thomas d'Aquin. Le père de Tonquédec ayant établi sa démonstration sur ces bases, en vient à examiner les prestiges diaboliques dont on sait qu'il a été de nos jours l'un des plus célèbres témoins. Dans le même ouvrage, revenant sur l'étrange incrédulité contemporaine en ce qui touche le démon, le professeur Henri-Irénée Maroux fait lui aussi assez brutalement l'examen de conscience de son temps. « Il y a là, dit-il, un effet du matérialisme caractéristique du milieu culturel de notre époque. » Disons, plus précisément, de la valeur trop exclusive donnée à la seule expérience sensible au détriment de tout ce qui relève du monde interne, intelligible, spirituel. Le peuple chrétien chante chaque dimanche le symbole de Nicée et prétend professer sa foi dans un Dieu créateur de toutes choses visibles et invisibles. Mais en fait, il ne pense pas sérieusement à l'existence, à la réalité des créatures spirituelles de ce monde invisible. Nous touchons, là aussi, à un aspect de la foi volontiers rejeté dans l'implicite. Le chapitre que l'on va lire intéresse les opérations diaboliques extraordinaires dont le curé d'Ars a été la victime. À l'exclusion presque totale de l'obsession extérieure où le démon attaque, frappe ou blesse la personne obsédée, à l'exclusion totale de l'obsession intérieure par laquelle le maudit semble communiquer à une pauvre âme quelque chose de ses sentiments infernaux et dont le curé d'Ars ne s'est jamais plaint, Monsieur Vianney a subi ce que le démonologue appelle l'infestation, où les démons manifestent leur présence par des vexations pénibles, mais plus effrayante que douloureuse. L'essentiel de ce que nous dirons ici, nous l'avons trouvé dans l'édition complète du curé d'Ars par l'abbé Alfred Monin. Rappelons une fois de plus que l'auteur a lui-même connu M. Vianney, qu'il a recueilli d'innombrables propos de sa bouche, et que la première édition de son livre a été publiée à Paris en 1861, soit 2 ans seulement après la mort du curé d'Ars. Une chose d'abord nous a frappé dans le témoignage de l'abbé Monin. Il commence lui aussi par se plaindre du scepticisme de son époque, touchant le monde invisible et l'existence des bons et des mauvais anges. Il appelle Bossuet à la rescousse. Qui pourrait dire la profondeur de Satan et par quels artifices ce serpent coule? Et il gémit sur l'ignorance et l'absurde matérialisme de son temps. Le sens des choses surnaturelles s'est tellement affaibli parmi nous que nous ne pouvons nous décider à croire aux phénomènes qui dépassent la sphère naturelle où nous respirons habituellement. En tout état de cause, avant de faire le récit de ces histoires étonnantes, l'abbé Monin affirme « Je sais d'avance tout ce qu'on dira du biographe ingénu qui a osé prendre au sérieux des faits contre lesquels le bon sens moderne a prescrit. » Puis il déclare « Et cela surtout nous importe, j'écris en regard du maître et de ma conscience. » Monsieur Vianney vient d'ouvrir la providence aux filles perdues et aux petites orphelines du pays. Quand des bruits étranges commencent à troubler le repos de ses nuits et le silence de son presbytère. Lui-même racontera l'origine de ces persécutions invraisemblables dont il sera si longtemps la victime. La première fois que le démon est venu me tourmenter, c'était à 9h du soir, au moment où j'allais me mettre au lit. 3 grands coups retentirent à la porte de ma cour, comme si on avait voulu l'enfoncer avec une énorme masse. J'ouvris aussitôt ma fenêtre et je demandai « Qui est là ?» Mais je ne vis rien, et j'allais tranquillement me coucher, en me recommandant à Dieu et à la très sainte Vierge et aux bons anges. Je n'étais pas endormi que 3 autres coups plus violents, frappés non plus à la porte extérieure, mais à celle de la montée d'escalier qui conduit à ma chambre, me firent sauter. Je me levai et m'écriai une seconde fois « Qui est là ?» Personne ne répondit. Lorsque ce bruit commença, je m'imaginais que c'était des voleurs qui en voulaient aux beaux ornements de Monsieur le Vicomte d'Ars, et je crus qu'il était bon de prendre des précautions. Je priai 2 hommes courageux de venir coucher à la cure pour me prêter main forte en cas de besoin. Ils revinrent plusieurs nuits de suite. Ils entendirent le bruit, mais ne découvrirent rien, et demeurèrent convaincus que ce vacarme avait une autre cause que la malveillance des hommes. J'en acquis moi-même bientôt la certitude. Car pendant une nuit d'hiver, qu'il était tombé beaucoup de neige, 3 énormes coups se firent entendre vers le milieu de la nuit. Je sautai précipitamment à bas de mon lit. Je pris la lampe et descendis jusque dans la cour, pensant trouver cette fois les malfaiteurs en fuite et me proposant d'appeler au secours. Mais, à mon grand étonnement, je ne vis rien. Je n'entendis rien. Et qui plus est, je ne découvris sur la neige aucune trace de pas. Je ne doutais plus alors que ce ne fût le démon qui voulait m'effrayer. Donc, la relation instinctive du curé d'Ars le porte d'abord à croire qu'il s'agit là de phénomènes naturels. Selon le témoignage de ses amis, et notamment de l'abbé Tocanier, il n'est pas crédule et ne prête foi que difficilement aux choses extraordinaires. Il se conduira d'ailleurs en tout cela avec la plus grande prudence, ayant gardé par devers lui une certaine méfiance paysanne. Monsieur Vianney ne peut en aucune façon être suspect d'inventer, quoi qu'il en soit. Le pauvre curé, chaque nuit, entend déchirer les rideaux de son lit. Là encore, il cherche la cause naturelle, s'imaginant n'avoir affaire qu'à des rats. Mais plus il secoue ses rideaux avec une fourche qu'il a déposée à son chevet, plus les déchirures sont bruyantes. Et d'ailleurs, le lendemain, les rideaux se trouvent intacts. Cela dit, Monsieur Vianney est accessible à la peur, comme tout le monde. Mais il la surmonte. L'une des personnes qu'il appelle au secours dans les premiers temps pour le protéger n'est autre que le charron du village, André Verchères, un robuste garçon de 28 ans. Et voici le récit que Verchères fera de ses aventures, et notamment au procès de l'ordinaire. « Depuis plusieurs jours, dira-t-il, Monsieur Vianney entendait dans sa cure un bruit extraordinaire. Un soir, il vint me trouver et me dit « Je ne sais si ce sont des voleurs. Voudriez-vous venir coucher à la cure ?» « Très volontiers, monsieur le curé. Je vais charger mon fusil. » La nuit venue, je me rendis à la cure. Je causai en me chauffant avec le curé jusqu'à 10 heures. « Allons nous coucher, » dit-il enfin. Il me céda sa chambre et passa dans celle d'à côté. Je ne m'endormis pas. Vers 1 heure, j'entendis secouer avec violence la poignée et le loquet de la porte qui donne sur la cour. En même temps, contre la même porte, retentissaient des coups de massue, tandis que dans la cure, c'était un bruit de tonnerre, comme le roulement de plusieurs voitures. Je pris mon fusil et me précipitai vers la fenêtre que j'ouvris. Je regardai et n'aperçus rien. La maison trembla pendant environ un quart d'heure. Mes jambes en firent autant et je m'en ressentis pendant 8 jours. Dès que le bruit eut commencé, monsieur le curé avait allumé une lampe. Il vint avec moi. « Avez-vous entendu ?» me demanda-t-il. « Vous voyez bien que j'ai entendu, puisque je me suis levé et que j'ai mon fusil. » Le presbytère s'ébranlait comme si la terre eût tremblé. « Vous avez donc peur ?» demanda encore monsieur le curé. « Non, dis-je, je n'ai pas peur, mais je sens mes jambes fléchir. La cure va s'écrouler. Que croyez-vous que c'est ?»« Je crois que c'est le diable. » Quand le bruit eut cessé, nous allâmes nous recoucher. Monsieur le curé revint le soir suivant, me priait de retourner avec lui. Je lui répondis, « Monsieur le curé, j'en ai assez comme ça. » Plus tard, monsieur Vianney, qui ne manque pas de malice, imitera l'embarras du malheureux gaillard. Mon pauvre Verchères était tout tremblant avec son fusil. Il ne savait plus qu'il en avait un. Le curé d'Ars n'ose toujours pas se prononcer sur l'origine exacte des bruits mystérieux. Mais déjà, il sait de quoi il s'agit. Plus tard, il avouera qu'avant cette période de lutte extérieure, il en a subi une autre, plus redoutable, pendant laquelle il a été tourmenté intérieurement. De la manière la plus persistante et la plus pénible, il voyait l'enfer sous ses pieds. Et une voix lui disait qu'il y avait sa place marquée d'avance. La crainte d'être damné l'obsédait jour et nuit. Ayant combattu et dominé cette tentation, le curé d'Ars n'est point trop surpris de voir éclater brutalement et presque naïvement le dépit de son adversaire. Voici, en général, comment les choses se passent avec le démon. À minuit, les 3 grands coups déjà entendus, frappés contre la porte extérieure de la cure, avertissent le curé d'Ars de la présence de l'ennemi. Et selon que son sommeil est profond ou léger, d'autres coups, moins rudes, se succèdent en approchant. Après s'être donné le divertissement d'un horrible tintamarre, dans l'escalier, le démon entre, se jette à nouveau sur les rideaux du lit, qu'il cramponne et secoue furieusement, comme s'il voulait les arracher. Parfois, avec cette espèce d'ironie cruelle qui est souvent un signe démoniaque, l'esprit malin heurte comme quelqu'un qui veut entrer, et l'on nous permettra de donner ici textuellement la description de l'abbé Monin. Un instant plus tard, après que la porte fut ouverte, il était dans la chambre, remuant les chaises, dérangeant les meubles, furetant partout, appelant monsieur le curé d'une voix moqueuse « Vianney, Vianney !» et ajoutant à son nom des menaces et des qualifications outrageantes. « Mangeur de truffes, oh, nous t'aurons bien, nous te tenons !» D'autres fois, sans se donner la peine de monter, il le hélait du milieu de la cour et, après avoir longtemps vociféré, imitait une charge de cavalerie ou le bruit d'une armée en marche. Tantôt, il enfonçait des clous dans le plancher à grands coups de marteau. Tantôt, il fendait du bois, rabotait les planches, sciait des lambris, comme un charpentier activement occupé dans l'intérieur de la maison. Ou bien, il taraudait toute la nuit et il semblait à monsieur Vianney qu'il allait le matin trouver son plafond criblé de trous, ou bien encore, il battait la générale sur la table, sur la cheminée, principalement sur le pot à eau, cherchant de préférence les objets les plus sonores. Le malheureux monsieur Vianney, déjà épuisé par un labeur sacerdotal qui dépasse largement les forces humaines, ne peut donc en aucune façon profiter des quelques heures de repos qu'il s'accorde encore. C'est d'ailleurs là, croyons-nous, l'une des raisons de la stratégie un peu rudimentaire que Satan emploie contre le saint curé. Il veut, le sachant mort de fatigue, saper à la fois son moral et sa résistance physique par ses tours de prestidigitation enfantins et bruyants, mais horribles, en raison de l'imagination affreuse qu'il reflète. Le démon attaque cet homme comme il attaquerait un père du désert ou un ascète du Moyen-Âge. Il cherche encore à profiter de sa simplicité, voulant sans doute frapper de terreur cet esprit paysan, lent à s'émouvoir, mais sujet à de grandes paniques. Et peut-être aussi pense-t-il qu'il convient de venir à bout de monsieur Vianney en attaquant son courage physique. Le pauvre curé dira plus tard à son évêque, monseigneur de Vie, J'ai jugé que c'était le démon parce que j'avais peur. Le bon Dieu, lui, ne fait pas peur. Bientôt, voyant que les armes purement humaines sont inutiles, Monsieur Vianney renvoie ses gardes et reste seul. Et c'est alors que le vrai combat commence. Pour repousser les attaques, le prêtre se tourne vers Dieu, fait le signe de la croix et même adresse quelques paroles de mépris au démon. Il a déjà remarqué que le bruit est plus fort et les assauts plus multipliés lorsque le lendemain, il doit venir un grand pécheur. À ce sujet, il dira plus tard avec cette espèce de bonne humeur, de dédain familier dont il fait preuve en évoquant son ennemi, « Le démon m'a bien agité cette nuit. Nous aurons demain beaucoup de monde. » Le grappin est bien bête. Il m'annonce lui-même l'arrivée des grands pêcheurs. Il est en colère, tant au mieux. Le grappin, pour Monsieur Vianney, c'est le diable. Or ce mot désigne une sorte de pioche à trois points, utilisée à l'époque dans les fermes du pays. Et la lutte continue, et les témoignages abonderont sur les rapports de Monsieur Vianney avec le démon. Ceux de la comtesse des Garets, de Catherine Lassagne, de l'abbé Beau, de Jean Pertinent, de l'abbé Mandy, de l'abbé Dufour ou de l'abbé Raymond, du frère Athanase et du frère Jérôme, de Pierre Auriol et de l'abbé Toucanier. Monseigneur Trochu en a résumé l'essentiel dans son ouvrage « Le curé d'Ars ». Mais c'est encore malgré tout dans les récits de l'abbé Monin que nous trouvons sur cette affaire étrange les anecdotes les plus stupéfiantes et les annotations les plus riches. Parfois, Monsieur Vianney croit qu'il va bénéficier d'une rémission, que l'adversaire n'osera pas venir. Le pauvre prêtre est là, exténué de sa journée, étendu sur sa paillasse où, volontairement, il a laissé si peu de paille qu'elle est dure comme du bois. Il va s'assoupir et tout à coup, ce sont des cris sinistres, des chocs inouïs, comme si le marteau d'un forgeron brisait la porte du presbytère. Puis le curé d'Ars s'aperçoit avec horreur que le démon est près de lui. « Je ne le prie pas d'entrer, dira-t-il, mais il entre tout de même. » Et le sabbat recommence, quelquefois soit dans sa chambre, soit dans la grande salle basse au-dessous de lui. Monsieur Vianney entend bondir comme un grand cheval échappé qui s'élève jusqu'au plafond et retombe lourdement des quatre fers sur le carreau. D'autres fois, il a le sentiment qu'un gendarme chaussé de grosses bottes fait résonner l'escalier sous son talon. D'autres fois encore, un immense troupeau de moutons passe indéfiniment au-dessus de sa tête et il est vraiment impossible de dormir sous ce piétinement monotone. Le malheureux prêtre souvent tremble de peur, tant les clameurs qui s'élèvent dans la maison ou dans la cour sont fortes et menaçantes. Il arrive, et dans la cour en particulier, qu'il entend d'un tumulte pareil au bruit qu'aurait fait une armée d'Autrichiens ou de Cosaques, ou bien, pour employer ses propres termes, il lui semble que des troupes de démons ont tenu dehors leur parlement. Mais ce n'est pas tout. L'imagination du maudit se donne libre cours, se livre à mille singeries qui déconcertent. Il imite le bruit d'un tonnelier reliant son tonneau avec des cercles de fer, chante d'une voix aigre, indéfiniment. Et le pauvre curé dira ensuite en riant « Le grappin a une bien vilaine voix ». Monsieur Vianney sent parfois une invisible main qui lui passe sur la figure. Un soir, il entend le bruit d'un essaim d'abeilles. Il advient aussi que son lit devient extrêmement doux et qu'il s'y enfonce, cependant qu'une voix ironique lui répète « Ha ha ha, allons, allons !» comme si l'on cherchait à le porter à la sensualité. Monsieur Vianney, alors, fait un signe de croix et la sensation amollissante se dissipe. Voici dans les notes de Catherine Lassagne des confidences recueillies jour par jour de la bouche même du Saint-Curé. Monsieur le curé nous a dit plusieurs fois ces jours passés. Je ne sais pas si ce sont les rats ou si c'est le grappin. Ils viennent par grosses bandes sur mon grenier et se promènent jusque sur mon lit. On dirait un troupeau de moutons. Je ne peux quasi pas dormir. Souvent je prends un bâton. Je frappe au plancher pour les faire taire. C'est toujours le même train. 2 juillet 1825. Monsieur le curé nous a dit, je ne sais si les rats chantent, mais il y en a un qui chante toujours par ma chambre. Il grimpe sur mon lit la nuit en chantant. 18 août. Monsieur le curé nous a dit hier que le démon chantait dans sa cheminée comme un rossignol. Septembre. J'ai senti cette nuit, nous a raconté monsieur le curé, comme le frôlement d'une petite bête qui me passait sur la figure. J'y ai porté vivement la main, et je n'ai rien pu saisir. Octobre. Monsieur le curé nous a recommandé d'élargir sa paillasse, parce que le démon le jetait hors de son lit. Je n'ai pas vu le grappin, a-t-il ajouté, mais plusieurs fois, il m'a saisi et m'a précipité de mon lit. Monsieur le curé nous a dit hier que le démon voulait le tuer. 4 décembre. Ce soir, monsieur le curé est venu nous voir et il nous a dit « Je vais vous raconter quelque chose. Le grappin m'a fait sa visite. Il soufflait si fort que j'ai cru qu'il voulait me renifler. Il semblait vomir du gravier ou je ne sais quoi dans ma chambre. Je lui ai dit « Je m'en vais là-bas, à la Providence, dénoncer tes intrigues afin de te faire mépriser. » Il s'est tu tout de suite. Mais voici plus extraordinaire encore. Un soir, c'est Catherine qui parle. Monsieur le curé était venu chez nous voir un malade. À mon retour de l'église, il me dit « Vous aimez les nouvelles ? Eh bien, en voici une toute fraîche. Écoutez ce qui m'est arrivé ce matin. J'avais quelque chose sur ma table. Vous savez ce que c'est ? C'était ma discipline. Il s'agit de l'instrument de pénitence de Monsieur Vianney, dont Catherine connaît l'existence sans jamais en parler. » Le récit du curé d'Ars continue. Elle, la discipline, s'est mise à marcher sur ma table, comme un serpent. Cela m'a un peu effrayé. Vous savez qu'il y a une corde au bout. J'ai pris cette corde. Elle était aussi raide qu'un morceau de bois. Je l'ai remise sur ma table. Elle a recommencé à marcher jusqu'à 3 fois. Vous faisiez peut-être branler votre table, objecta une des maîtresses présentes à la conversation. Non, reprit monsieur le curé, je ne la touchais pas. Il s'agit là de témoignages bien nets et bien précis. Jamais le curé d'Ars n'en sera avare. Alors que les grâces insignes qu'il recevra du ciel, en compensation, il n'en parle presque pas. Et chaque fois qu'il en parlera, on aura le sentiment que c'est par inadvertance, malgré lui. Il évoquera toujours le diable abondamment. Or, nous l'avons dit, monsieur Vianney est prudent et n'est pas crédule. Il a de bons yeux, de bonnes oreilles, un bon jugement et du bon sens paysan à revendre, sans parler des lumières de sa très haute spiritualité. Il a donc toutes les qualités requises pour être un témoin sans reproche. Cependant, les confrères même de monsieur Vianney se montrent d'abord sceptiques à l'égard de pareilles histoires. Ils sont peu disposés à croire en la réalité de ces manifestations diaboliques. Sans vergogne, ils cherchent des causes, naturelles et physiologiques. Ils accusent les veilles auxquelles se soumet M. Vianney de l'épuiser en troublant son imagination, qu'il prenne une dose normale de sommeil et de nourriture, et cette fantasmagorie s'évanouira. Or, les ironistes sont bien vite confondus. C'est encore l'abbé Monin qui nous raconte la chose. Nous avons vu qu'en 1826, Monsieur Vianney a consenti à se joindre aux missionnaires pour le grand jubilé de Saint-Trivier près d'Ars. Il y reste 3 semaines, prêche un peu et confesse beaucoup. Et comme l'on parle déjà sans retenue de ses démêlés avec le démon, les confrères de Monsieur Vianney reprennent leur argumentation et leurs conseils. « Allons, allons, cher curé, faites comme les autres, nourrissez-vous mieux, c'est le meilleur moyen d'en finir avec toutes ces diableries. » Et le soir, jaloux peut-être des succès de Monsieur Vianney, certains prêtres du diocèse vont beaucoup plus loin. On le traite ni plus ni moins de visionnaire et de maniaque. « Votre cure, lui dit-on, est un taudis, où il n'y a ni propreté ni arrangement. Les rats y sont chez eux, ils y prennent leur repas jour et nuit, et vous croyez que c'est le diable. » Content d'avoir été humilié, le curé d'Ars rentre chez lui en souriant. Et voici qu'à minuit, tous les moqueurs sont réveillés en sursaut par un affreux vacarme. C'est la cure elle-même qui est sans dessus dessous. Les portes qui battent, les vitres qui frissonnent et les murs qui chancellent avec des craquements sinistres. Tout le monde est vite debout. Et l'on se souvient alors d'une petite prédiction que le curé d'Ars a faite avant de se retirer. Vous ne serez pas étonné si par hasard vous entendez des bruits cette nuit. Dans sa chambre, on le trouve qui repose tranquillement. Affolé, les bons confrères lui crient « Hé, levez-vous, la cure va tomber !»« Oh, je sais bien ce que c'est, » répond-il. « Allez vous coucher, il n'y a rien à craindre. » Une heure plus tard, Monsieur Vianney est éveillé par un léger coup de sonnette et trouve à la porte de la cure un homme qui a fait plusieurs lieues pour se confesser à lui. Il se rend aussitôt à l'église et, après avoir entendu cet homme, voit défiler devant lui un grand nombre de pénitents. Mais l'esprit du mal continue de veiller, de multiplier ses moyens d'attaque. Ne pouvant ruiner dans la personne du curé d'Ars ni la foi brûlante, ni la pureté, ni l'humilité, il combine des tours qui paraissent absurdes. Mais, nous l'avons dit, ils le sont moins qu'on ne pense, car voilà bien les seules armes qui restent au démon pour éprouver Monsieur Vianney qui diminue sa résistance, pour saper sa gaieté naturelle, cette belle humeur dont tous les témoins ont parlé, pour briser son repos et l'éloigner ainsi du ministère des âmes. Souvent le diable se cache sous le lit, voire sous le chevet du Saint-Curé, poussant cris aigus, gémissements, plaintes étouffées, faibles soupirs. Il geint comme un homme qui fait un grand effort manuel et parfois râle comme un malade à l'agonie. Malgré tout, en dépit de la crainte inévitable qu'il éprouve, l'un des sentiments de M. Vianney à l'égard de son ennemi est un mépris sans fond. « Le démon est bien fin, dira-t-il un jour dans son catéchisme. Même devant les enfants qu'il enseigne, il raconte volontiers ses aventures avec le diable. Mais il n'est pas fort. Un signe de croix le met en fuite. Tenez !» Il n'y a pas encore 3 jours qu'il faisait un grand vacarme au-dessus de ma tête. On aurait dit que toutes les voitures de Lyon roulaient sur le plancher. Pas plus loin qu'hier soir, il y avait des troupes de démons qui secouaient ma porte. Je ne comprenais pas un mot de leur jargon. J'ai fait le signe de la croix et ils sont tous partis. Une nuit, il est réveillé en sursaut et se sent lever en l'air. Peu à peu, je perdais mon lit, dira-t-il. Un signe de croix vient à bout de cette horrible sensation. Lorsque M. Vianney se rend à Montmerle afin d'y confesser et d'y prêcher, le démon l'y poursuit. Dès la première nuit, il le traîne dans son lit tout autour de sa chambre en sorte qu'il ne peut fermer l'œil. Monsieur Vianney, de bonne heure, le lendemain matin, entre à l'église et trouve une foule attendant le sacrement de pénitence. Il pénètre dans son confessionnal. À peine y est-il installé qu'il se sent soulevé et ballotté, comme une barque sur la mer. Plus tard, évoquant Montmerle, il dira « Le grappin s'amusait, la nuit à me promener dans ma chambre sur un lit à rouler. » Un jour, en 89, l'abbé Monin entend lui aussi monsieur le curé se plaindre de ce que le démon a voulu le tuer. En effet, pour aller prêcher un jubilé, l'abbé Vianney est parti à pied avant le jour et sans être accompagné. Il a marché en récitant son chapelet. L'air autour de lui était rempli de lueurs sinistres. L'atmosphère était comme embrasée et, de chaque côté du chemin, les buissons lui paraissaient en feu. Sans doute était-ce l'ennemi qui, prévoyant les efforts du curé d'Ars dans les âmes, cherchait à l'effrayer, à le décourager. Monsieur Vianney, transi d'horreur, n'en a pas moins continué sa route. Une autre fantaisie du démon, l'une des plus ignobles auxquelles on ait jamais assisté, le porte à profaner une image de la Sainte Vierge représentant l'Annonciation, un tableau accroché au tournant de l'escalier du presbytère et que Monsieur Vianney aime beaucoup. Voyant le culte particulier dont le curé honore cette image, le grappin la couvre tous les jours de boue et d'ordures. On a beau la laver chaque matin, on la retrouve plus noire et plus contaminée que la veille. À telle enseigne que M. Vianney prend en définitive le parti de la faire enlever. Il en est bien triste, d'ailleurs, et c'est un petit point que l'ennemi a marqué. Les témoignages sur cette horrible histoire sont aussi indiscutable qu'il est possible, et l'abbé Renard dira lui-même avoir vu ce tableau maculé au point que la figure de la Sainte Vierge n'était plus reconnaissable. Cependant, comme le curé d'Ars persiste dans ses entretiens et son enseignement spirituel à raconter 1000 anecdotes sur ses démêlés avec le diable, il est en butte à de nombreuses questions. « Ces bruits que vous entendez dans la nuit, tout ce tintamarre ne vous fait pas peur ?»« Oh non !» répond le curé d'Ars. Qui a fini par dominer la crainte. Je sais que c'est le grappin, ça me suffit. Depuis le temps que nous avons affaire ensemble, nous nous connaissons, nous sommes camarades. Et d'ailleurs, le bon Dieu est meilleur que le diable n'est méchant. C'est lui qui me garde. Ce que Dieu garde est bien gardé. Et toujours les manifestations les plus bruyantes de l'adversaire annoncent les plus grands pénitents, les plus gros poissons. Et M. Vianney de dire, imitant par plaisanterie la respiration forte et bruyante de son visiteur, « Aujourd'hui, il était bien en colère. C'est bon signe !» Il soufflait comme un bœuf. 3 ans avant sa mort, éclatera le fameux incident du lit brûlé. L'abbé Monin, là-dessus, n'aura qu'à évoquer ses souvenirs personnels, ses souvenirs de témoins présents à l'affaire. Et nous reproduisons ci-dessous le texte même de son récit, car nous pensons que l'on a beaucoup trop oublié cet auteur. Un matin, on était au jour gras. On célébrait pour la première fois les 40 heures à Ars. La foule était énorme. Le travail de Dieu dans les âmes plus profond et plus éclatant que jamais. En sortant de très bonne heure pour me rendre à l'église, je fus saisi sur le seuil de la porte d'une odeur de roussi infecte et si pénétrante que je faillis être renversé. J'ai traversé rapidement la place. La sainte messe, le catéchisme et quelques confessions me conduisirent jusqu'à 7 heures. Quand j'eus fini, je trouvais tout le village attroupé autour de la cure. J'aurais pu croire à un événement tragique s'il n'avait été manifeste. En regardant cette foule, que l'impression générale était la gaieté. On riait, on plaisantait, on s'interpellait d'un bout de la place à l'autre. Et les mots de lit et de grappin étaient tout ce que je pouvais saisir dans ce brouhaha. « Qu'est-ce ? » demandai-je en m'approchant d'un groupe. « Comment ? Est-ce que vous ne savez pas que le diable a mis le feu cette nuit au lit de monsieur le curé ? Voyez, voyez. » Je vis en effet, à travers la porte entrebâillée de la cour, quelques hommes passèrent en emportant des débris à demi consumés. J'entrai et allai droit à la chambre de monsieur Vianney, où je trouvai tout le désordre, toutes les traces d'un incendie à peine éteint. Le lit, le ciel de lit, les rideaux, et ce qui était alentour, quelques tableaux qui tiraient toute leur valeur de la dévotion de monsieur le curé, ces vieilles peintures qu'il aimait tant et dont il nous disait quelques jours auparavant que ces bons saints étaient la seule chose en ce monde à laquelle il tint encore un peu. Tout avait été consumé. Le feu ne s'était arrêté que devant la châsse de sainte Philomène, et à partir de ce point littéralement pris, il avait tracé du haut en bas une ligne droite et d'une précision géométrique, détruisant tout ce qui était en deçà de la sainte relique, épargnant tout ce qui était au-delà. Comme il s'était allumé sans cause apparente, il s'est éteint de même. Et ces choses vraiment remarquables et en quelque façon miraculeuses, qu'il ne se soit pas communiqué par les épais rideaux du serge, de serge au plancher, si noir et si enfumé, qu'il aurait dû flamber comme de la paille. Ce qu'il y a eu aussi de très particulier, c'est que monsieur le curé, qui était survenu au milieu de ce déménagement et de ce pêle-mêle, n'eut pas l'air de s'en apercevoir. Il croisa plusieurs personnes chargées de débris. Il ne leur fit aucune question. Je le trouvai à la sacristie et voulus lui dire quelques mots de l'accident qui mettait le pays en émoi. Il se contenta de faire une petite moue accompagnée d'un geste d'indifférence. Ce ne fut qu'après la sainte messe, en signant les images, qu'il s'interrompit tout à coup. Je le vois encore la plume levée, son regard doux et profond arrêté sur moi. « Il y a longtemps, me dit-il, que je demandais cette grâce au bon Dieu. Il m'a enfin exaucé. Je pense que cette fois, je suis bien le plus pauvre de la paroisse. Ils ont tous un lit, et moi, grâce à Dieu, je n'en ai plus. » Puis, sans autre réflexion, il se remit à signer les images que la foule lui présentait. Ému de pitié, M. Monin dit alors à M. Vianney « Pauvre monsieur le curé !» Mais le curé d'Ars répond sans s'émouvoir « Oh ! Il y a moins de mal que si c'était le plus petit péché véniel !» Et lorsqu'un peu plus tard on lui demande s'il croit vraiment que l'esprit malin a été pour quelque chose dans l'incendie, il répond avec le plus grand sang-froid « Oh mon ami !» C'est bien visible. Ne pouvant pas avoir l'oiseau, il a voulu brûler la cage. Ajoutant aussitôt comme toujours, il est en colère et c'est bon signe. Il va nous venir de l'argent et des pêcheurs. Et les manifestations de Satan continuent autour du curé d'Ars. On demandera à des témoins qui ont couché à la cure s'ils ont entendu parfois quelque chose. Et plusieurs répondront qu'en effet, il y avait des nuits où il était impossible de s'endormir. On plaint d'ailleurs sincèrement l'abbé Vianney qu'une immense rumeur environne désormais et quelques-uns de ses visiteurs se montrent bien pressés de le quitter, malgré leur amour et leur vénération. « Pauvre curé d'Ars, dira l'un d'eux, pauvre saint homme, comment peut-il vivre au milieu de ce tapage ?» À la Providence même, selon le témoignage de Catherine et des autres directrices, on entend parfois la nuit des bruits de pas dans les escaliers et dans les dortoirs. Après enquête, on ne découvre rien. Pendant quelque temps, on trouve habituellement, les jours maigres, des morceaux de viande dans la soupe. Il arrive souvent à la cuisinière de vider le contenu de la marmite et de la remplir d'eau fraîche tirée du puits tout exprès. C'est peine perdue. La viande reparaît au fond du vase. On recommence un jour l'expérience jusqu'à 3 fois. À la fin, Marie Fillade, déconcertée, en parle à Monsieur Vianney lui-même. « Servez la soupe, dit-il, et faites-la manger quand même. C'est le grappin qui fait ça. Moquez-vous de lui !» On était tellement familiarisés avec les ruses du démon, diront les directrices, qu'on ne s'en étonnait même plus. Cet examen de faits réels, authentiques, observés par des témoins irrécusables et d'un équilibre mental qui n'a jamais été contesté, corroboré d'ailleurs par des dizaines d'autres témoignages qui jamais ne contredisent les premiers, cet examen et cette étude resteraient très incomplets si nous ne parlions pas des cas de possession qui ont été soumis au pouvoir singulier surnaturel de M. Vianney. Or, chaque fois que le ciel se manifeste d'une manière éclatante et que les grandes houles des pèlerinages se lèvent à l'horizon, nous voyons apparaître en même temps les créatures investies par le malin, car le diable toujours fut le voisin de Dieu. C'est ainsi qu'à Lourdes, les infestations sataniques se manifesteront d'une manière à peine croyable, et nous aurons là-dessus les enquêtes et témoignages extraordinaires du père Cros. Dès 1858, après les apparitions de la Vierge à Bernadette, le père Belluse, exorciste connu, usera de ses pouvoirs à tour de bras. Il en va de même dans Ars, où Monseigneur de Vie a autorisé le Saint-Curé à pratiquer l'exorcisme chaque fois que les circonstances le demandent. Et l'abbé Monin dira « Au milieu des crises les plus violentes, nous les avons vus les posséder, se calmer instantanément sous la bénédiction et la parole du Saint-Prêtre de Jésus-Christ. Mes confrères et moi avons assisté à des scènes d'un caractère à tout le moins fort étrange. Nous pourrions redire ici des choses prodigieuses que nous avons entendues si elles n'impliquaient de notre part la prétention de résoudre une question que nous ne pouvons ni ne voulons préjuger. Le maréchal Ferrand du village, Jean Picard, déclarera lui-même avoir assisté aux événements les plus bizarres. C'est ainsi qu'une malheureuse femme a été amenée de loin par son mari. Le curé d'Ars l'examine, déclare qu'il faut la conduire à l'évêque de son diocèse. « Bon, » répond cette femme qui retrouve alors la parole, mais dont le timbre de voix donne le frisson. La créature s'en retournera. « Ah, si j'avais le pouvoir de Jésus-Christ, je vous engloutirais dans tous les enfers. »« Tiens, » répond M. Vianney, « tu connais Jésus-Christ ? » ?»« Eh bien, qu'on la porte au pied du grand autel. Il faut 4 hommes pour l'y déposer. » Monsieur Vianney met alors son reliquaire sur la tête de la possédée et au bout d'un peu de temps, elle est entièrement délivrée. Pierre Auriol, qui est l'un des amis et des familiers de Monsieur Vianney, racontera de son côté l'histoire de cette femme âgée que l'on voit dansante et chantant toute une journée sur la place de l'église. On lui fait boire de l'eau bénite et aussitôt, elle se met à mordre les murs de l'église avec fureur. Son fils désespéré l'accompagne, puis Monsieur Vianney vient à passer et donne sa bénédiction à l'infortunée vieille femme, dont la bouche saigne. Aussitôt, elle devient parfaitement calme, alors que son mal dure depuis plus de 40 ans. Elle aussi est délivrée, et ses crises ne reviendront plus. Autre histoire encore, on amène à Ars une jeune institutrice qui donne tous les signes de la possession diabolique. On l'introduit dans la sacristie, mais aussitôt la possédée cherche à prendre la porte, criant « Il y a trop de monde ici. Il y a trop de monde, répond Monsieur Vianney. Eh bien, on va sortir. » Et il reste seul avec elle. Mais un prêtre qui est resté contre la porte entend une partie du dialogue. « Tu veux donc absolument sortir ?» demande Monsieur Vianney. « Oui. Et pourquoi ?»« Parce que je suis avec un homme que je n'aime pas. »« Tu ne m'aimes donc pas ?» demande le curé d'Ars. « Non, crie la jeune fille d'une voix stridente. » Mais bien vite, l'institutrice se calme et on la trouve levant sur Monsieur Vianney un regard de gratitude. Elle est délivrée pour toujours. Voici enfin une pièce que l'abbé Monin a découverte parmi des manuscrits très authentiques et dont il nous donne les références. Elle se présente, nous dit l'auteur, avec tous les signes d'une incontestable sincérité, sous le titre de dialogue entre une possédée des environs du Puy-en-Velay et le curé d'Ars. Ce colloque a eu lieu l'après-midi du 23 janvier 1840 dans la chapelle de Saint-Jean-Baptiste en présence de Geneviève Fillat d'Ars, de Marie Boyat et de 6 autres personnes. On lira ci-dessous le résumé, ou plutôt la reproduction littérale, qui a été faite sous la dictée de M. Vianney. Nous voulons en citer le texte tout entier, car il est proprement extraordinaire et n'a jamais été, à notre connaissance, depuis l'abbé Monin, reproduit complètement. La possédée. « Je suis immortel, monsieur le curé. Vous êtes donc la seule personne qui ne mourrait pas. Je n'ai fait qu'un péché dans ma vie, et je fais part de ce beau fruit à tous ceux qui veulent. » Lève la main, absous-moi, tu la lèves bien quelquefois pour moi. » Lui parlant en latin, « Tu quis es ?» la possédée, lui répondant dans la même langue, « Magister caput !» Et continuant en français, mais en français diabolique, « Vilain crapaud noir que tu me fais souffrir, nous nous faisons mutuellement la guerre, c'est à qui vaincra l'autre, mais vois-tu, en fait, il t'arrive bien de temps en temps de travailler pour moi. Tu crois ton monde disposé et il ne l'est pas. Pourquoi fais-tu l'examen de conscience de tes pénitents? À quoi bon tant de recherches? Est-ce que celui que je leur fais faire ne suffit pas? Tu dis que tu fais l'examen de conscience de mes pénitents? Ils ont pourtant recours au bon Dieu avant de s'examiner. Oui, du bout des lèvres. Je te dis que c'est moi qui fais leur examen. Je suis plus souvent dans ta chapelle que tu ne penses. Mon corps s'en va, mais mon esprit reste. J'aime bien quand on y cause. Tous ceux qui y viennent ne sont pas sauvés. Tu es un avare. C'est difficile que je sois un avare. J'ai peu, et le peu que j'ai, je le donne de bon cœur. Ce n'est pas de cette avarice que je parle, c'est de l'autre. Tu es avare des âmes, tu m'en arraches tant que tu peux, mais je tâcherai bien de les ravoir. Tu m'as arraché une robe noire, à moi maintenant de la rattraper. Tu es un menteur. Il y a longtemps que tu dis que tu veux t'en aller et tu restes toujours. Que fais-tu donc là? Tant d'autres se retirent pour se reposer. Que ne fais-tu comme eux? Tu as bien assez travaillé. Tu voulais aller à Lyon? C'est vrai, monsieur le curé, dans ce temps-là, songe beaucoup à Fourvière. À Lyon, tu serais aussi à l'aise qu'ici. Tu voulais te retirer dans la solitude. Et c'est vrai encore, il a envisagé cette idée d'une retraite à Fourvière ou à la Trappe. Pourquoi ne le fais-tu pas? Qu'as-tu encore à me reprocher? Tu étais bien interloqué dimanche dernier pendant la messe, te rappelles-tu? Ce dimanche était le deuxième après l'épiphanie. Monsieur le curé a avoué que jusqu'à l'évangile, il avait ressenti un trouble intérieur extraordinaire. « Ta robe violette t'a écrit dernièrement, mais j'ai si beau et si bien fait qu'elle a oublié une chose essentielle, ce qui l'a fort contrariée. Monsieur Vianney a effectivement reçu ce jour-là une lettre de son évêque. « Monseigneur, me laissera-t-il partir ? Il t'aime trop. Sans cette... Ici, la possédée désigne la très sainte Vierge sous un nom injurieux. Tu serais déjà loin. Nous avons bien fait tout ce que nous avons pu auprès de la robe violette pour te faire déguerpir. Nous n'avons pas réussi à cause de la sainte Vierge. Ta robe violette est aussi avare que toi. Elle me fait également bien souffrir. N'importe, nous l'avons endormie sur un abus qui est dans son diocèse. La robe violette du puits me fait aussi cruellement souffrir. Allons, lève la main sur moi comme tu le fais sur tant d'autres qui viennent ici tous les jours. Tu crois les convertir tous? Tu te trompes. C'est bon pour un moment, mais je les retrouve ensuite. J'ai bien aussi quelques-uns de tes paroissiens sur mon catalogue. Que dis-tu d'un tel, un prêtre d'une vertu éprouvée? Je ne l'aime pas. Ces mots sont prononcés avec une rage concentrée et accompagnés d'effroyables grincements de dents. Et un tel? À la bonne heure, celui-là. Il nous laisse faire ce que nous voulons. Tu l'avais mis en règle, mais ça n'a pas tenu. Ah ça, dis-moi, pourquoi ne fais-tu pas comme les autres? Comment font donc les autres? Ils se donnent entre eux de grands repas. Je n'ai pas le temps. Les autres le prennent bien. Il y a aussi des crapauds noirs qui ne me font pas tant souffrir que toi. Je sers leur messe, ils la disent pour moi. Sers-tu la mienne? Tu m'ennuies. Ah, si la Sainte Vierge ne te protégeait pas, mais patience, nous en avons fait tomber de plus fort que toi. Tu n'es pas encore mort. Pourquoi te lèves-tu si matin? Tu désobéis à la robe violette qui t'a ordonné d'avoir soin de toi. Que penses-tu de la danse? J'entoure une danse comme un mur entoure un jardin. À mesure qu'il vieillira, le curé d'Ars verra les obsessions diaboliques aller diminuant en nombre et en intensité. C'est tout de même là, dans cette vie de peine, de douleur et de travaux forcés pour les âmes, une consolation qu'il aura connue. Mais jusqu'au bout, M. Vianney racontera, lui qui est incapable de mensonges, ses rapports avec le grappin, avec l'horrible camarade. Il affirme et sait qu'il est tourmenté par Satan, ange déchu, esprit et personnage extérieur. Et jusqu'au bout, fort de ses innombrables expériences, voire aussi des révélations spirituelles dont il a été comblé, le curé d'Ars combattra cette absurde négation du monde moderne qui ne croit plus aux anges. Alerté par les témoignages du père de Tonquédec et de certains psychiatres catholiques, j'ai voulu interroger l'un des exorcistes actuellement en activité, le père Berger Bergès. Je voulais savoir si en ce moment, en 1959, dans cette atmosphère ultra-matérialiste où nous vivons, en plein progrès technique et en plein air atomique, les manifestations démoniaques se poursuivaient d'une manière irrécusable. Et dans une lettre du 25 avril 59, le père énumère en guise de réponse les cas principaux dont il s'occupe sans arrêt depuis 6 ans. Le père Berger Bergès fait d'ailleurs à ce sujet, documents et procès-verbaux en main, des conférences publiques auxquelles il convie tous les contradicteurs éventuels. Et il ajoute à la fin de cette lettre dont il m'autorise à faire état, « Pour l'exorciste conférencier qui signe ces lignes, c'est une œuvre d'apologétique et d'apostolat, d'une utilité urgente, surtout dans une société qui ne croira bientôt plus ni à Dieu ni à diable. » Il est certain que les faits extraordinaires survenus à Ars entre 1854 et 1856 environ, dans le domaine des infestations sataniques, ont aidé au réveil de la vie spirituelle, à l'immense renommée d'un humble prêtre, à la renaissance d'une rue des bonnes inquiétudes dans les âmes, à la conversion des pécheurs. Et Satan lui-même fera cet aveu étonnant par la bouche d'un autre possédé. Dieu se sert des démons pour ranimer la foi. Faut-il donc que je serve d'instrument pour instruire les hommes, moi qui enrage de les perdre ?